I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vulgaire. Toute ma vie, j'ai pensé que Sissi, c'était un personnage de fiction avec des tresses trop compliquées, des châteaux qui brûlent en arrière-plan, une robe de nuit en lin blanche qui vole au vent et qui disait des trucs du genre « Je vous en conjure, calmez vos ardeurs, marquis. Mon cœur était pris de votre cousin par alliance, le vicomte héritier du trône de France. » Mais bon. Soit disant que Sissi, elle a vraiment existé. D'ailleurs, Mathilde, qui m'aide pour le podcast et qui est super fan de Sissi, m'a dit
« Mais attends, Marine, sans Sissi, l'Autriche s'était foutue. »
Alors, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai regardé un ou deux secrets d'histoire, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Elisabeth de Wittelsbach, a.k.a. Sissi, naît avec déjà une dent, vrai détail, le 24 décembre 1837 à Munich, en Allemagne, qui, à l'époque, s'appelle le Royaume de Bavière. Elle arrive dans une famille noble, avec une mère qui regrette de ne pas avoir épousé un futur roi, un peu comme tout le monde, en fait. Et un père un peu absent parce qu'il kiffe les voyages, mais comme il fait des trucs cool, Sissi le pardonne. Exemple, il aurait joué de la cithare en haut des pyramides. Alors moi d'abord quand j'ai lu ça j'ai pensé mais c'est vrai c'est trop cool. Et puis après je me suis dit mais en fait c'est surtout une très bonne excuse de père absent. Ah là là mince je peux pas aller chercher les enfants à l'école j'ai si tard sur une pyramide. Ah là là à crotte à la boulette. Alors à part si t'es Jean-Michel Jarre moi perso j'y crois pas trop. Elle et ses sœurs reçoivent une éducation assez libre et sans tout le protocole qu'on imagine dans les familles nobles. Elle fait du cheval, elle se balade en forêt, elle kiffe la poésie, elle a les cheveux longs qui volent au vent, bref. C'est Alex Lutz en week-end, quoi.
C'est allemand ? Je sais pas, ça fait allemand, Vas-y, voilà, c'est tout.
À 14 ans, elle tombe amoureuse d'un mec, mais il meurt de la tuberculose. Du coup, bah, ça la déprime. Non mais les ados, non mais ils font des scènes pour n'importe quoi. Pour lui remonter un peu le moral, sa mère lui propose d'aller avec elle en Autriche parce que sa sœur, Hélène, doit se marier avec le futur empereur François-Joseph Ier. Son cousin, hein, pour info. Pas genre son cousin éloigné, non, c'est son cousin Germain, son cousin, quoi, hein, Christine Boutenstein, le fils de sa tante, la sœur de sa mère, son cousin. Bref. Une petite cérémonie est prévue. Au bal, devant tout le monde, il doit donner une rose rouge à Hélène en guise d'annonce officielle et de demande en fiançailles. Donc bon, on est clairement dans un épisode du Bachelor. Et là, pile avant la pub, retournement de situation, Greg le millionnaire ne donne pas la rose à Hélène, mais à Sissi. Il a eu un crush pour elle et visiblement aussi un partenariat avec mon souffleur parce qu'il lui offre carrément devant tout le monde un bouquet entier. Du coup, boum, à 15 ans, Sissi se marie et là, bon, elle comprend bien que sa vie va être un peu moins la teuf que prévu. Elle dit d'ailleurs à je sais plus qui, oh, si seulement il n'était pas empereur. En gros, c'est la Meghan Markle de son époque. Alors, elle se marie le 24 avril 1854, et d'ailleurs, juste avant de retrouver François Jojo, petite anecdote, elle cogne sa couronne de diamants dans la porte de la calèche. Bon, bah, titre. Ah bah, elle cogne la couronne de diamants dans la calèche, excusez-moi, mais c'est un énorme titre. Elle est vraiment pas à l'aise, et elle écrit d'ailleurs dans son journal un petit poème de derrière les fagues. Ah, puis-je ne jamais avoir quitté le sentier de la liberté. Je me suis réveillée en prison, les mains retenues par des chaînes, le désir toujours plus ardent, liberté. Liberté, tu m'as délaissée. Alors j'avoue, au départ, j'ai pensé « Non mais hey, ça va, drama queen, là ? Elle en fait des caisses ? Non mais on dirait un discours des anti-masques dans une interview BFM. »
Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur. C'est un rituel des pédosataniques, d'accord ?
Je me suis réveillée en prison. Liberté ! Eh, hey, calme-toi, Nicolas Bedos, hein. Tu poses tout doucement cet Instagram sur le sol. Hein. Tu peux le faire, hein. C'est pas non plus horrible. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà, c'est bien.
Et moi, c'est Bedos. Bedos avec un B, comme bienvenue en France, mais restons calmes tout de même. Hein.
Et puis, j'ai continué mes recherches, c'est vrai que... Bah, c'était une sorte de prison. Dorée, certes, mais une prison quand même, dont la geôlière était sa tati, devenue sa belle-mère. L'archiduchesse Sophie. Donc, je ne connais pas l'état de... Ah, putain. Dont je ne connais pas l'état de séchage des chaussettes... Dont je ne connais pas l'état de séchage des chaussettes. Déjà, Sophie, elle voit pas la beauté de Sissi. Tout le monde en était estomaqué, mais elle, elle dit « Moi, elle est dangereuse, je trouve. » Ensuite, le protocole est très très strict. Et surtout, il faut savoir qu'à l'époque, dans cette famille royale, les nuits de noces se faisaient en public. Donc imaginez, vous avez 15 ans, et là, on vous annonce que vous allez devoir coucher pour la première fois de votre vie avec votre cousin, et qu'en plus, il y aura plein de monde. Sissi, elle se révolte, évidemment, et elle obtient que ça se passe avec seulement son mari, mais c'est quand même sa belle-mère qui la prépare. Et donc c'est elle qui dit « Tu peux entrer, François Jojo. Dans la pièce. Et dans Sissi, visiblement. Sissi, elle a pas trop envie de coucher avec lui, du coup elle le fait attendre, de nuit. Mais à la troisième, elle craque ou il insiste, on sait pas trop, mais en tout cas ça arrive. Et c'est drôle parce que dans tout ce que j'ai lu ou vu, on nous parle de la bienveillance et de l'amour qu'il lui portait pour avoir quand même attendu le troisième soir. Alors moi, ce que je vois juste, c'est un viol conjugal, bah retardé, mais un viol conjugal quand même. D'ailleurs, Sissi dira plus tard à sa fille, le mariage est une institution absurde, enfant de 15 ans, j'ai été vendue. Vendu littéralement, hein, puisque la perte de sa virginité a été récompensée par une boîte remplie d'or. Moi, la perte de ma virginité a été récompensée par une mycose. Bon, j'ai pas envie de vous en parler maintenant. Non mais... Assez rapidement, elle donne naissance à son premier enfant, et sa belle-mère décide, 1, que cette petite fille s'appellera Sophie, comme elle, 2, qu'elle s'en occupera, et que 3, d'ailleurs, tous les enfants du couple seront élevés par elle, qui saura forcément mieux faire que Sissi, qui, rappelons-le, a les dents jaunes. Donc là, je vous annonce que dans ce podcast, on va désormais appeler l'archiduchesse Sophie Cruella.
Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Cruelle, Cruelle.
Bon, je pense que c'est mérité, là. Sissi accouche d'une deuxième fille, Gisèle, dont Cruella s'occupera aussi. Et quand même un jour, parce que ça rend Sissi vraiment trop malheureuse de pas voir ses enfants, Cruella accepte de confier la petite Sophie qui a 2 ans à sa mère pour quelques jours pendant un voyage officiel. Sauf qu'elle est malade et qu'elle finit par décéder dans les bras de Sissi. Là, Cruella la culpabilise 8000.
Cruelle.
Mais il se passe un truc. Le peuple compatit avec Sissi dans sa douleur et lui témoigne une grande sympathie. 1858, Sissi accouche enfin d'un garçon, Rodolphe, héritier très attendu, et évidemment, Cruella lui retire la garde de son petit garçon, dont l'éducation est confiée à des précepteurs un peu chelous.
Je n'en connais pas qui soit plus perverse que cette cruelle diablesse.
Là, Sissi, ça va pas du tout. Elle commence à fumer, elle se balade avec des gros chiens, elle écoute du death metal, elle fait mauvaise impression, mais elle s'en fout, bref, c'est une punk à yinche. Elle finit par partir de Vienne pour aller se reconstituer le moral à Madère, puis à Corfou. Et ça lui fait un bien fou. Elle revient revigorée et, a priori, sublimée. Tout le monde la trouve magnifique. Et c'est à son retour que Sissi comprend 2 choses. 1. Bah d'abord que les voyages, c'est son dada. Elle va passer son temps à visiter le monde dans un train aménagé entièrement et spécialement pour elle. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Et c'est ça qui la fera tenir dans ses longues périodes de dépression, de partir en voyage. Et 2, que sa beauté est un pouvoir et que du coup elle pourrait s'en servir pour faire de la politique. Elle en a déjà usé en Italie, province d'Autriche, juste après une visite catastrophique avec son mari où ils ont eu un accueil horrible. Personne les a applaudis pendant leur visite de Venise. Donc imaginez, hein, eux ils sont sur une gondole, habillés tout en habits d'empereur et d'impératrice. Ils font coucou aux gens et les gens ils les calculent pas, ils leur mettent des vents, c'est une humiliation totale. Il s'est aussi passé un truc fou dans un théâtre où il devait voir une pièce avec tous les nobles de la ville. En réalité, les nobles en question ont payé leur place, mais ils ont envoyé leur personnel pour voir la pièce à leur place, pour snober et piéger les époux. C'est un affront de ouf. Sissi, elle comprend que cet accueil, elle est due à une politique trop dure et insiste auprès de son mari pour qu'elle soit adoucie, et il accepte. Pour Sissi, c'est une première victoire politique. Wow ! Donc, elle décide de servir de sa beauté, mais pour ça, il faut l'entretenir. Et ça, c'est du boulot. Croyez-en mon expérience. Ah bah, je suis moi-même très belle, et c'est vrai que... Bon, après, j'ai les dents jaunes. C'est merveilleux le podcast parce que je peux dire n'importe quoi. Elle fait de ses cheveux son instrument de beauté ultime. Tous les jours, ils sont plusieurs à les coiffer. Ça dure 2 heures. C'est un très long rituel, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est long, hein, 2 heures. Mais ça reste une routine cheveux moins longue que celle de Julien Doré, donc ça va.
Tout le monde a quelque chose à dire sur mes cheveux.
Elle commence aussi une vie d'athlète de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. D'ailleurs, elle installe carrément une salle de fitness dans ses appartements de tous ses palais, le Club Med Gym de Vienne, quoi. Elle marche énormément, des randonnées de 10 heures, elle fait énormément de cheval, de chasse à cour, des figures de ouf, d'art équestre. Bref, elle est tout le temps fourrée chez Decathlon quand c'est le dimanche. Elle danse énormément avec François Jojo, hein, notamment sur une chanson de François Feldman qu'elle affectionne particulièrement.
Maintenant que deviennent les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes.
Après, j'avoue, on l'aime tous, hein, cette chanson. Et en même temps, elle suit un régime très strict, elle mange très peu, elle boit du jus de bœuf à moitié cru, elle fait des jeûnes, des cures d'un seul aliment, elle boit plein de jus pressé. En gros, elle aurait pu être instagrammeuse, quoi. Les gens sont épatés par son tout petit tour de taille, 51 cm, c'est peu, hein. Ah bah c'est Violette Chachki, la meuf, hein.
C'est qui
Violette Chachki? C'est qui c'est celle qui a gagné RuPaul's Drag Race. C'est une drag queen très très célèbre et très très impressionnante parce qu'elle met vraiment des corsets très, très serrés. Voilà, ça c'est mon cousin, Antoine, qui monte le podcast. J'ai pas couché avec lui. Par contre, il ressemble à Julien Doré, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à me demander des photos sur Instagram. Il est beau gosse.
C'est célibataire.
Non, oh, c'est con. Mais il est pas célibataire parce qu'il est avec moi.
Je vous rassure tout de suite, on n'est pas des empereurs. Vraiment, dans notre famille, on est tous sauf des empereurs. Bref. Pour en revenir à Sissi, elle souffre clairement de malnutrition et de grandes courbatures, parce que c'est tout ce que je viens de vous raconter avant, mais elle comble ça par de la cocaïne prescrite par des médecins, qu'elle prend pour se soulager. Mais alors tout ça c'est sympa, mais vous vous dites sûrement, bah, pourquoi Mathilde elle a dit...
Sans Sissi, l'Autriche c'était foutu.
Eh bah figurez-vous que dans les années 1860, la Hongrie est une province qui appartient à l'Autriche, mais que les Hongrois, ils sont pas trop d'accord. Ils ont même tenté de se rebeller pour avoir l'autonomie, mais ça a foiré, et du coup, bon, leur vie elle est pas dingo. Faut savoir aussi que les Prusses, les Allemands, toujours eux quand il y a une guerre on dirait, ils avancent et qu'ils vont sûrement finir par envahir l'Autriche. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour François Jojo. Sissi, elle kiffe la Hongrie et elle œuvre auprès de son mari avec le chef de l'État hongrois pour que l'Autriche ne soit plus l'Empire d'Autriche mais que ça devienne l'Autriche-Hongrie. Deux forces égales, mais qui feraient ensemble une alliance bien plus puissante pour contrer la Prusse. Malin, hein ? Ça marche, les Prusses sont repoussés, François Jojo et Sissi sont même couronnés roi et reine de Hongrie. Instantanément, elle traduit son prénom Elisabeth. Là-bas, elle devient Erzsébet. Les Hongrois, ils adorent Sissi, et d'ailleurs, c'est réciproque. Elle porte le costume traditionnel, elle parle couramment la langue, elle s'entoure de Hongroises, et pour la remercier, le gouvernement lui offre même un palais, le palais de Gödöllő. Et c'est un vrai palais, hein, c'est pas un palais où il n'y a pas de voyelles, hein, c'est vraiment juste, voilà, ça s'appelle Gödöllő. Voilà. Gödöllő. Là-bas, il y a une super ambiance. Hein. Tout le monde s'éclate à Gödöllő. Tout le monde se marre à Gödöllő. Tout le monde chante aussi, évidemment, à Gödöllő. Et je dirais même que tout le monde danse à Gödöllő. Bon, très gros niveau de vanne, je sais. Bon, en tout cas, c'est d'ailleurs à Gödöllő qu'elle donnera naissance à Marie-Valérie, sa dernière enfant qu'elle a, elle, pu élever. Néanmoins, Sissi, elle enchaîne les périodes de dépression et d'euphorie. Elle voyage toujours beaucoup et on raconte par exemple qu'elle se faisait attacher au mât des bateaux pendant les tempêtes afin de ressentir plein d'émotions fortes. Mais ce qui ancre vraiment Sissi dans la dépression, c'est que son cousin préféré, alors pas son cousin mari, hein, là c'est son cousin BFF, visiblement elle passe tout son temps avec ses cousins, je sais pas qui fait ça, qui traîne avec ses cousins toute sa vie, Antoine. Son cousin meurt, plein de gens autour d'elle meurent, et enfin, coup de trop, c'est que son fils, Rodolphe, meurt aussi dans des conditions un peu étranges, et elle s'en remettra jamais. Elle développe à ce moment-là une fascination pour la mort. Elle s'habille désormais toujours en noir, ses dames de compagnie aussi, d'ailleurs on les appelle les ombres. Elle fait du spiritisme, elle communique avec eux, elle a à côté de son lit une grande statue flippante, et elle cache toujours son visage sous des voiles ou des éventails pour qu'on ne puisse plus jamais la voir, comme Sia. Elle refuse aussi qu'on la prenne en photo et les journaux sont obligés de faire des montages d'anciennes photos d'elle pour avoir l'air d'en sortir de nouvelles. Ce qui fait qu'elle ne vieillit pas vraiment pour les gens et que sa beauté reste intacte, un peu comme sa légende. Avec François Jojo, bon, ils sont en contact, hein, surtout que lui, il a jamais cessé d'être amoureux. Il lui écrit d'ailleurs beaucoup de lettres.
Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne.
Mais elle ne vient que rarement au palais et du coup, bah, elle lui trouve une amante, avec qui elle est très amie par ailleurs. De son côté, par contre, on lui connaît pas d'aventure, que ses aventures soient hétérosexuelles ou homosexuelles. A priori, elle en a jamais eu. Un jour, elle est en retard pour attraper un bateau et un homme qui s'avance vers elle lui donne un coup de poing. Elle tombe, mais tout va bien, elle est juste estomaquée et elle se demande pourquoi cet homme l'a violentée. Elle en déduit qu'il a voulu la voler et elle fonce au bateau pour ne pas rater le départ. Elle est quand même un peu blanche, elle fait un malaise et on réalise qu'elle saigne. En réalité, cet homme ne lui a pas seulement donné un coup de poing, car son poing serait aussi une lame qui a pénétré le corps de Sissi. Elle meurt sans avoir compris qu'elle avait été assassinée. Elle avait 60 ans. Le peuple et François-Joseph sont effondrés, franchement, moi aussi un peu, et l'amour des gens pour Sissi n'aura de cesse de grandir grâce à des films, notamment, où elle est interprétée par Romy Schneider, wow, ou Ariel Dombal. Wow, moins, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, on peut encore visiter ses palais, et il y a même un musée qui lui est consacré à Vienne. Moi, en vrai, je connaissais pas l'histoire de Sissi. En apprenant tout ça, j'ai été impressionnée par sa vie et par elle, en fait, donc je trouve ça trop bien. Et j'espère que ça vous aura autant intéressé que moi. Voilà, ça, c'était l'histoire de Sissi, mais en vulgaire. Mais tu fais pas la blague de Sissi la famille ? Non, non, je la fais pas.
Avec des Sissi la famille, on mettrait la nuit en sommeil. Avec des Sissi la famille, on se dit qu'on s'aime.
PS, dans le prochain épisode, on parlera de la permaculture.
Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast « Attendre d'attendre un enfant », c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force détail, comme si vous étiez mes meilleurs poteaux. Je m'appelle Sophie Rich et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Et oh, on n'est pas des bêtes, ok ? Attendre d'attendre un enfant, un nouvel épisode tous les lundis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.